Bonjour à tout le monde.
Oui, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois ce dimanche. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés toute la semaine. Et nous sommes ici pour le louer, pour lui dire merci. Mais parce que nous sommes là parce qu'il a voulu. Et aujourd'hui, nous allons écouter son message. Ce n'est pas mon message, comme on vient de le dire. Nous allons écouter le message de Dieu. Et ce qu'il nous dit, le message de ce jour se trouve dans Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Matthieu 5, versets 13 à 5. Matthieu 5, versets 13 à 5 dit ceci: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la ruine entrera-t-on? Il ne serait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, mais on la met sur la chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je lis tout ce paragraphe parce que je voudrais faire vous rappeler que la fois passée, dans les deux dernières prédications, nous avons parlé de la deuxième partie de ce paragraphe. En ce qui concerne la lumière, nous avons vu que non seulement Jésus est la lumière du monde, mais que nous aussi nous sommes la lumière. Et nous avons vu dans la prédication ce que ça voulait dire. Je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit. Aujourd'hui, je vais vous dire, pour parler de la première partie de ce passage, que Jésus, c'est lui-même qui dit à ses disciples, et donc à nous maintenant, que qui disait, vous êtes le cerf de la terre. Donc il y a deux parties. Il y a la lumière et il y a le sel. Et la question qu'on se pose, peut-être on va avant de se poser des questions, nous allons voir dans quel contexte Jésus a prononcé son discours. Dans vos Bibles, c'est écrit que c'est le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes au chapitre 5 de ce livre de Matthieu. Nous sommes au début de sa mission. Nous sommes au début de sa mission. Jésus venait d'être baptisé. Il venait de passer 40 jours dans le désert pour être tenté par le diable. Et il commençait à peine de recruter des gens qui vont l'aider, qu'on appelle les apôtres. Il n'avait pas beaucoup. À ce moment-là, il avait très peu. Peut-être la Bible nous dit qu'il venait d'avoir quatre. Donc, il commençait son travail. Il commençait sa mission. Et au chapitre 5 que nous allons lire, en fait, ça nous montre Jésus qui commence son travail et qui, déjà, on voit qu'il passait la montagne et beaucoup de gens vont le suivre. Donc, ça veut dire qu'il a commencé sa mission dans l'enseignement. Il voulait enseigner les gens. Enseigner les gens sur le royaume de Dieu. Et quand nous lisons dans le chapitre qui précède, surtout au chapitre 4, Jésus commence sa mission en disant de la bonne parole pour montrer aux gens comment ils doivent se comporter. Et dans le sermon sur les montagnes, la première partie du verset 1er jusqu'au verset 12, juste avant le paragraphe que nous venons de lire, nous voyons que Jésus commence par ce qu'on appelle les béatitudes. Les béatitudes, c'est quoi? C'est une série de situations que Jésus montre aux gens pour dire, pour les montrer leur façon de vivre, comment ils doivent vivre s'ils veulent réellement hériter le royaume des cieux. Quel comportement ils devaient avoir? Il parle à ses disciples et donc aussi à la foule qui était en train de l'écouter. Bon, il commence cette partie par les béatitudes. Et après ça, maintenant, il demande, il dit, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire quoi? C'est ça que nous allons voir. La question que nous pourrons nous poser, mais pourquoi est-ce que Jésus a dit aux gens qu'ils sont du sel? Pourquoi est-ce que Jésus a dit aux gens qu'ils sont la lumière? Hein? Donc, c'est, nous connaissons, nous utilisons la Bible. Nous savons que Jésus, dans beaucoup de cas, n'utilisait pas les mots exacts qu'il voulait dire, qu'il utilisait ce qu'on appelle les métaphores et les paraboles pour que les gens puissent raisonner eux-mêmes, ou les gens puissent prendre des efforts de comprendre ce que Jésus voulait dire. Aujourd'hui, la voix, comme je disais, nous avons vu, quand il parlait de vous êtes la lumière du monde, pour montrer qu'ils ont cette responsabilité d'être la lumière dans les ténèbres, elle est visible partout, mais aussi la lumière a le but d'éclairer les autres, d'influencer sur les autres, de briller pour les autres. Donc, ça veut dire que le chrétien, le converti, a le devoir aussi de faire quelque chose pour les autres, d'oublier pour les autres. Ça, nous l'avons vu la fois passée. Maintenant, nous allons nous focaliser sur l'autre partie, sur le sel. Pour mieux comprendre ce que Jésus voulait dire, nous devons nous mettre dans le contexte de l'Antiquité, donc de cette époque pendant laquelle vivait Jésus au début de sa mission. Le sel, c'était quelque chose de très important. Maintenant, le sel était très important. Mais le sel, c'était un moyen de. Oui, non, non seulement on l'utilisait parce que tout le monde en avait besoin, mais il y avait tout un temps, un genre de commerce qu'on faisait de partout pour que les gens puissent s'approvisionner en sel. Mais quand on parle de sel, Jésus a utilisé le mot sel parce qu'il y avait beaucoup de choses. Beaucoup de leçons qu'il voulait donner à ces personnes. Maintenant qu'il était en train le nombre était en train d'augmenter, quand nous lisons la Bible, nous voyons que chaque jour qu'il enseignait, le nombre augmentait. Et nous verrons plus tard, si nous continuons à lire chapitre de Matthieu, que chaque jour qu'il prêchait, le nombre de convertis augmentait, mais plutôt le nombre de disciples augmentait. Et il fallait au début qu'il puisse montrer le chemin de comment les gens vont être chrétiens. À ce moment-là, on ne parlait pas de chrétiens encore. On les appelait des disciples. Le monde des disciples doit se comporter dans la population. Et puis, nous disons donc que cette métaphore de ce qu'appelait les chrétiens a influencé positivement le monde. Cette image symbolise la mission d'assaisonner la vie, de préserver la vérité spirituelle et de donner du goût et du témoignage à l'Alliance. Le sel, donc, dans son contexte, il voulait montrer que quand nous on parle de sel, en fait, on sent la première chose, c'est la saveur. Nous donnons du sel aux aliments pour que nous puissions les manger. Et s'il n'y a pas de sel dans l'aliment, c'est fade. Et quand c'est fade, on n'a pas envie de manger. C'est ça, c'est pour montrer que si vous êtes un croyant, vous ne devez pas être fade. Vous devez montrer de la saveur. On verra ce que ça veut dire plus tard. Mais ça veut dire que quand tu as du sel, on mange, mais on a si plaisir à manger. Alors il n'y a pas de sel, on n'a même pas envie de manger. Donc, Jésus voulait montrer aux gens que maintenant ils ont eu le temps de le connaître, ils vont être dans la communauté, dans la société, il faut qu'ils soient, cette faveur, ça veut dire là, il faut qu'ils soient acceptables, il faut qu'ils soient agréables dans le message qu'ils vont donner aux autres personnes. Donc, la première signification du sel, je dis parler de saveur, ça c'est connu par tout le monde. Donc, le sel ajoute la saveur aux aliments, mais pour les chrétiens sont appelés aussi à apporter de la joie, de la paix et de l'amour dans le monde. rendant ainsi la vie plus riche et plus agréable pour ceux qui les entourent. Donc, il faudrait de mettre le ciel, ça veut dire que votre comportement, votre façon de faire, votre façon de parler doit plaire, doit être agréable aux gens pour que les gens puissent écouter le message que vous allez leur donner. C'était cette saveur-là qui est comparée au sel. Les croyants, donc, ils ont un rôle essentiel à jouer dans le monde en préservant la bonté et en ajoutant de la saveur à la vie. Vous qui m'écoutez, que ce soit ici, que ce soit au Zoom, suivez cette leçon que Jésus est en train de donner aux gens. Oui, moi, je vous enseigne maintenant, mais vous, après moi, vous aussi, vous allez enseigner les autres. Moi, je vous enseigne maintenant, mais vous vivez dans votre communauté. Si vous vivez dans votre communauté, votre comportement doit être différent de ce que la communauté vit. Plus tard, nous verrons qu'il va dire aux gens, vous, les chrétiens, vous, les croyants, vous êtes dans votre communauté, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Votre façon de vivre en tant que chrétien doit être différente de ce que les non-croyants vivent. Et ça commence maintenant. Et nous verrons que dans ces deux versets, verset 13 et verset 14, il dit, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, c'est une mission que Jésus est en train de donner. L'autre signification donc de cette expression qu'il a, de ce mot sel, quand il dit vous êtes le sel, l'autre signification, c'est ce que nous connaissons aussi, c'est le symbole de conservation. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, à cette époque, il n'y avait pas de machines de frigidaire comme on en a maintenant, et pour conserver les aliments, essentiellement la viande, on utilisait le sel pour conserver les aliments. Quand il dit, et Dieu, en se référant au sel, il veut dire qu'eux aussi, ils ont le rôle de conserver, de protéger la foi des gens qui vont l'écouter. Votre rôle, oui, c'est de bien vous comporter, d'être la saveur, mais ce que vous faites ne doit pas être ponctuel. Ce que vous faites doit être, il y a le mot pérennité, pérennisation de ce que vous êtes en train de faire, pour que les gens continuent à vivre. C'est le message que vous êtes en train de vous donner. Le message de l'évangile, du royaume de Dieu que Jésus avait enseigné. De même, les croyants sont appelés à préserver les valeurs morales et spirituelles telles que la vérité, la moralité dans la société, empêchant la corruption et le crime moral. C'est cette endurance ou cette persévérance que le peuple de Dieu doit montrer. Voyons ce que dit Matthieu 24. Matthieu 24, verset 13, dit ceci. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus voulait dire que vous êtes le sel, nous l'avons vu, vous avez la saveur du sel pour que votre comportement, votre discours soit acceptable. Mais votre message aussi doit être de longue durée, doit être perpétuel. Donc, pour montrer qu'il y avait une sorte de persévérance, d'endurance dans le message. Oui. Ce que fait le sel quand on met sur des aliments comme la viande et qu'on peut conserver pendant longtemps. L'autre signification du mot, symbole plutôt du mot sel, nous le trouvons dans Lévitique 2.3. Lévitique 2.3 qui dit ceci. Ceci, c'est en rapport avec les offrandes et les holocaustes qu'on faisait dans le temps, dans le monde de la Lévitique. Et où, quand on faisait une offrande, on devait mettre du sel sur les offrandes. Sur toutes les choses. Je lis le verset 3, verset 13, c'est dit ceci. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes et tu ne seras point ton offrande manquée de sel, signe de l'alliance de Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Ceci, c'est une alliance de Dieu. Donc, le sel, dans le temps ancien, donc dans l'Ancien Testament, en fait, toutes les offrandes, on devait mettre du sel. Le sel, ça montrait une sorte de. C'est une alliance ou une connexion avec Dieu pour dire que sans sel, l'offrande ou l'holocauste n'avait pas de sens. Il fallait mettre du sel. Donc, c'est symbolique. C'est pour montrer que le sel qui est à nous, quand nous le donnons aux autres, nous perpétuons cette notion de connexion, cette notion d'alliance que Dieu a avec nous. Et quand on continue à lire dans les Lévitiques, on voit que dans les holocaustes, vous savez qu'on devait sacrifier les bœufs, les taureaux, sacrifier les brebis. Chaque fois qu'on voulait sacrifier un animal, comme holocauste, dans le temple, on devait ajouter du sel. On devait mettre du sel sur l'animal pour montrer qu'il y avait une alliance entre les humains et Dieu, entre le principal sacrificateur et Dieu. Donc, nous continuons à décortiquer ce thème de sel pour voir pourquoi Dieu a employé son mot. Mais le sel aussi, il y a possible différents quatre. Le sel aussi, c'est un symbole d'identité. Symbole d'identité, parce que quand on se référant à ses disciples comme le sel de la terre, Jésus souligne leur importance et leur identité. Quand il dit « vous êtes le sel de la terre », Jésus voulait dire que vous êtes, dans toute la Bible, de la Bible, il dit que vous êtes une race spéciale, vous êtes un groupe spécial. Quand vous êtes croyant, quand vous êtes chrétien, vous n'êtes pas comme le commun des mortels. Vous êtes un peu, vous êtes très différent. Vous avez votre propre identité, votre façon de vivre, votre passé de parler, de vos conduites dans la société doit être spécial. Vous devez montrer votre identité par votre manière de vivre. Ceci donc implique la responsabilité d'agir selon le balai du royaume de Dieu et d'influencer positivement l'environnement et de vivre en accord avec le commandement de Dieu. Donc, vous voyez que dès le début de son ministère, je vous ai dit que Dieu voulait montrer à ses disciples comment leur responsabilité est très importante. Comment le sel transforme une nourriture qu'on ne peut pas manger parce qu'elle est fade et que devient agréable, devient mangeable. Et aussi, avec cette responsabilité de changer dans la communauté où ils vont intervenir pour que les gens puissent les suivre. Et quand on dit que c'est une identité, nous allons voir que le chrétien, oui, il se met dans la communauté, mais la communauté doit avoir son identité. C'est dommage de voir qu'un chrétien, un vrai chrétien, puisse être dans la communauté et ne pas être invisible comme différent d'eux. Est-ce que vous m'en suivez? Ça veut dire qu'un chrétien doit avoir son identité. Et vous connaissez dans notre communauté, quand vous savez que quand tu étais un chrétien, je dis chrétien, ça veut dire quand tu es converti, et qu'il tombe dans l'oubli, et qu'il change, et que ce qui se passe, les gens sont déçus. Les gens sont déçus de voir, telle personne. Et pourtant, c'était un bon chrétien. Quand ils disent comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça veut dire qu'il n'est plus ce qu'il était. Donc, ça veut dire qu'il y a cette identité que nous devons maintenir parce que nous l'avons prise sur celle que Dieu a mis en nous. Sur celle doit nous distinguer des autres et garder ce cap d'identité. La question que nous pouvons nous poser, comment est-ce qu'on peut voir notre identité? Comment est-ce qu'un chrétien, on peut voir que c'est réellement... Quand vous voyez quelqu'un dans la rue, du marché, dans le magasin, est-ce qu'on peut voir son identité? Peut-être à première vue, on ne le voit pas, mais quand on s'approche de lui et qu'on voit comment il marche, comment il parle, comment il agit, on peut dire, ah oui, ça, si c'était un vrai chrétien. En fait, un bon croyant doit être responsable pas de sa vie générée par des fruits du Saint-Esprit qui vient à lui. En fait, ça serait faux de dire que je m'appelle chrétien, donc je suis spécial. Vous tous, vous ne pouvez pas y arriver. Parce que c'est la façon d'être un bon chrétien. Il faut la grâce du Seigneur, de Dieu pour qu'il t'aide, parce que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a les caractéristiques d'un bon chrétien que tu dois avoir. Et ces caractéristiques, nous les voyons dans les fruits du Saint-Esprit, parce que si vous êtes un bon chrétien, le Saint-Esprit vit en vous. Si le Saint-Esprit vit en vous, ça va se savoir. Ça va se savoir. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission. Ça va se savoir. Quand le Saint-Esprit est en vous, ça va se faire remarquer. Les gens vont dire, ah, hein, parfait, c'est un bon chrétien. Pourquoi ils vont dire comme ça? Parce que votre façon de vivre, vous allez voir ces fruits, vous allez voir ces caractéristiques. Vous allez voir l'amour. Quelqu'un qui vous dit, il y a l'amour. Vous allez voir la joie de vivre. Vous allez voir la paix. Vous allez voir la patience. Vous allez avoir la bonté, vous allez avoir la bienveillance, vous allez avoir la loyauté, vous allez avoir la durabilité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la modestie. Donc, ça, ce sont les fruits du Saint-Esprit, mais que nous devons avoir. Un bon arbre, on le voit par les fruits qu'il produit. Donc, s'il n'a pas de fruits, s'il n'a pas de bons fruits, en fait, un arbre qui n'a pas de bons fruits, en fait, il ne sert à rien. Jésus dit qu'on doit le couper, l'utiliser comme bois de chauffage. Donc, ici, Jésus veut nous dire que nous sommes le sel, hein, pour nous dire que notre identité doit être différente des autres par ce que nous sommes, par les fruits que nous produisons. Hein, qui sont les fruits qui sont générés par le Saint-Esprit. L'autre symbole, septième symbole, c'est que le symbole de la pureté. Jésus nous appelle que nous sommes le sel par la pureté que nous devons avoir. La pureté. Quand nous lisons en Jean, chapitre 17, Jean 17, verset 14, qui dit ceci: Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. La pureté, nous parlons de la pureté. Vous avez le sel, vous connaissez le sel. Il a quelle couleur le sel? Oui, le sel a une couleur blanche. Et la couleur blanche, ça symbolise la pureté dans la Bible. Donc, la couleur blanche, c'est la pureté. Donc, par sa couleur et sa capacité à conserver les aliments, le sel est devenu symbole de la pureté. Non seulement le sel, il doit donner la saveur, mais aussi ça symbolise quelque chose de pur. C'est pour cela que Jésus l'a utilisé pour les inciter à être purs, pour les inciter à être bons, pour les inciter à fuir le péché. C'est ça, là, c'est ça, c'est ça, c'est ça la pureté. Le sel représente donc la pureté que les croyants doivent s'efforcer d'atteindre. Cette pureté vient du fait de ne pas être trop lié au monde. Les croyants, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, comme nous venons de le lire. Oui, la pureté. La pureté, c'est cette façon qu'un chrétien doit vivre à l'instar de Jésus-Christ. nous, méthodistes, nous insistons sur la sainteté. Sur la sainteté, sur cette façon de vivre, cette façon de croire, cette façon d'agir à l'instar de Jésus-Christ. Nous devons inviter, mettre au pas le pan du Christ, essayer de faire comme il a fait, dans la mesure de notre possibilité. C'est ça la sainteté. Donc, la pureté, il voulait montrer à ses disciples qu'ils devaient être purs, qu'ils devaient éviter le péché, qu'ils devaient. Oui, ils sont dans le monde, mais ne sont pas du monde, que leur façon de travailler, leur façon de vivre avec la communauté devait suivre. Enfin, nous verrons plus tard ce que ça signifie parce que, juste à ses débuts, nous devons éviter le péché dans la mesure du possible. L'autre signification du sel, symbole plutôt du sel, diapositive suivante, oui, et c'est. Quand dans le verset, on nous dit, verset 13, on nous dit, vous êtes le sel de la terre, mais, il y a un mais, vous connaissez la signification du mot mais, hein? Mais, si c'était, vous êtes le sel de la terre, point final, ça va, mais il y a un mais, ça veut dire que, vous êtes le sel du moment que vous remplissez certaines conditions, du moment que vous avez la saveur, du moment que vous avez la durabilité, du moment que vous êtes votre identité de chrétien. Mais, le perd sa saveur, se perd sa saveur, avec quoi rendra-t-on? Bon, la question a été posée par Jésus, mais je ne sais pas. Mais nous aussi, en fait, lui dit, il ne sert plus à rien. Parce que le sel, c'est là pour donner la saveur. Si on n'a pas la saveur, ça devient quoi? Ça devient de la poudre ou des grains de cailloux que vous avez devant vous. Donc ça ne sert à rien. On doit le jeter. Et on le jette ou dans la poubelle, ou dans la rue, et les gens vont marcher dessus. Donc, effleurer au pied par des gens. Oui. Ça, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde faite par Jésus à ces gens. Oui, je vous dis que comment vous devez vous comporter, vous devez être le sel avec les caractéristiques que nous venons de voir. Mais si vous. Parce que il y a une chose que nous devons comprendre dans cette expression de Jésus. En fait, quand il dit vous êtes le sel du monde, il n'a pas dit, si vous voulez, vous pouvez être le sel du monde. Il vous dit, est-ce que ça vous plairait d'être le sel du monde? Non, ce n'est pas ça que Jésus a dit. Il a dit, vous êtes. Il a dit, vous êtes le sel du monde. En d'autres mots, c'est un ordre, voilà. C'est un ordre qui donne, vous êtes le sel du monde. Vous voulez me suivre? D'accord, mais attention, vous êtes le sel du monde. Avec ce que ça implique comme devoir aussi. Bon, si vous ces critères que nous avons vus de saveur, de protection, d'identité ou autre chose, en fait, vous n'êtes plus le sel. Ça veut dire que vous n'avez plus, vous n'êtes pas agréable aux gens. Ça veut dire que vous ne servez plus à rien dans mon ministère. À ce moment-là, vous êtes inutile. Si vous êtes inutile, oui, c'est comme vous pouvez rester là-bas, donc vous ne servez plus à rien. Dans d'autres mots, moi, je ne vous considère plus comme mes disciples parce que vous ne servez pas à mon but, à mon objectif. Donc, la question que nous disait sur les conséquences lorsqu'on a perdu le sel, parce qu'on peut le perdre, le sel qui perd sa saveur devient fade et ainsi il est considéré comme inutile. Ça, c'est le côté physique. Quand vous avez une salière, vous mangez, il n'y a pas de sel, vous mettez du sel et que vous voyez que ça ne change rien. À ce moment-là, vous allez vous poser des questions. Ça, c'est quoi? Est-ce que c'est du sel? Et puis, vous mettez un corps est beaucoup, et vous ne sentez rien. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous sommes là, vous la serrez, vous pouvez la jeter même dans la poubelle parce que ça ne sert plus à rien. Alors, ici, ce qui est une. C'est une métaphore pour souligner que la responsabilité pour les croyants de maintenir une foi active et ardente. Et nous, c'est nous, ils sont dans la communauté. Donc, ceci, quand je dis vous êtes le sel du monde, Jésus pointe ici notre responsabilité, c'est notre action sur ce que nous devons, sur ce que nous devons faire. Si nous ne le faisons pas, nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus utilisables par Dieu. Donc, dans cette réflexion que je suis en train de faire, j'ai essayé de vous montrer l'importance de cette image que Dieu a utilisée pour nous dire que nous sommes du sel, pour montrer notre action de chrétien, d'action de croyant sur les autres. C'est la mission d'éclairer les autres. Nous avons déjà parlé de la lumière. Dans la lumière, nous sommes visibles. Nous pouvons aussi briller pour les autres. Mais ici, avec le C, c'est encore plus d'action. Plus d'action de ce que nous allons faire pour influencer les autres dans le message que nous allons leur donner, dans l'évangélisation. Pour les inviter à changer aussi. Et à avoir du sel aussi dans le comportement. La question que nous pouvons nous poser est de savoir, est-ce que nous, est-ce que toi, est-ce que moi, est-ce que lui, est-ce qu'elle, est-ce que vous avez du sel en vous? Est-ce que vous avez du sel en vous? C'est ça la question. Pourquoi? Parce que si vous continuez à être appelé chrétien et que vous n'avez pas de sel, avec les qualificatifs vous je ne dis pas que vous êtes inutile, que vous vous jetez dans la poubelle, mais je vous demande de changer. Je vous demande de changer après de maintenant pour que vous ayez cette saveur que Dieu veut pour les autres. Donc, Dieu veut que nous soyons utiles pour les autres, pas seulement pour nous, mais pour les autres. Il faut que les gens voient en nous quelque chose de spécial. Il faut que les gens voient en nous notre identité pour que nous puissions les influencer. Donc, si nous voulons être sur Jésus, n'oublions pas que ce discours sur la montagne, Jésus le faisait devant les disciples, devant des gens. Et quand les personnes ont décidé de quitter la maison pour aller voir Jésus, c'est parce qu'ils avaient quelque chose, ils avaient une soif, ils avaient une faim. Parlant de la faim, je voudrais aussi vous montrer cet aspect du sel aussi qui est. Vous savez, qu'est-ce qui se passe quand vous mangez trop de sel? Qu'est-ce qui se passe dans vous? Quand vous mangez trop de sel, pour les gens, ceux d'entre vous qui ont eu, qui sont allés dans des bars pour boire, quand vous êtes dans un bar, je crois que maintenant, dans le temps, on le faisait. On nous servait quelque chose de salé, de cacahuètes, ou en tout cas, quelque chose de salé. Pas, même, on nous donnait ça gratuitement. Pourquoi est-ce qu'on nous donnait gratuitement ça? C'est parce que le sel, quand il dit quand le sel, c'est la dessiccation. Donc, ça tire l'eau. Et vous avez soif. Quand vous avez beaucoup de sel, vous avez beaucoup soif. Alors, si on vous donne ça pour vous saler, c'est pour que vous ayez plus de soif et que vous puissiez consommer encore dans un bar. Bon, le sel aussi, ici, que nous voyons, ici, quand nous le prenons, ça nous donne soif de connaître. Quand nous donnons notre sel, nous le partageons aux autres. En fait, nous le donnons de sel, nous créons cette envie de boire, nous créons cette envie de manger. Nous manger quoi? Manger la bonne nouvelle de Christ. C'est cette image de sel qui crée un besoin de manger, un besoin de boire, et que nous devons créer aux autres, parce que nous sommes le sel. Si nous sommes le sel, nous devons influencer les autres de ce côté-là. Autre chose, autrement, je dis du sel qu'on pourrait ajouter maintenant. Ce que quand vous mettez du sel dans votre nourriture, en fait, le sel agit par le contact de proximité. Le sel ne va pas se mettre tout de suite, mais il va par contact de proximité jusqu'à ce que toute la nourriture puisse être imprégnée de sel et vous aurez de la saveur quand vous allez manger. Une autre façon de faire aussi pour le chrétien, le croyant, quand nous transmettons les messages, ce n'est pas bon d'être, on déconseille d'être agressif. Agressif. On parle par proximité, on parle contact. Et puis les gens finiront par être imprégnés par par ce qui sort de nous dans le message que nous allons leur donner. Donc, c'est sûr aussi pour vous montrer que le sel, c'est un bon exemple que Jésus a donné et qui doit nous aider, nous aussi, dans notre évangélisation, de savoir que oui, notre sel, notre personne qui est du sel peut influencer les gens, mais si nous osons nous déplacer vers eux, si nous osons faire le contact direct avec eux, je ne peux pas changer quelqu'un que je n'ai pas rencontré. Il faut que je le rencontre, il faut qu'il me voie, il faut voir comment je réagis, comment je fais, ce que je fais. Et ceci, ça va l'influencer. Et c'est ça aussi un autre exemple du ciel. Donc, nous disons donc pour terminer que Jésus a fait cet appel à cette époque pour ses disciples et Jésus fait encore le même appel pour nous actuellement. Il dit, il nous appelle que vous êtes le cerf de la terre. Ceci n'est pas une offre de choix, comme je l'ai dit, mais c'est un ordre. C'est une mission pour les croyants que nous sommes. Oui, Jésus, aujourd'hui, vous donne cet ordre-là. Vous êtes le sel. Agissez comme le sel. Faites quelque chose. Jésus ne veut pas nous voir comme des figurants. Il veut nous voir comme des acteurs. Et c'est pour cela que il nous dit que nous sommes le sel. Nous avons cette responsabilité. Oui, c'est un père à responsabilité et un engagement de croyant à être des agents de changement et de préservation dans le monde. Oui, Jésus nous dit, oui, vous avez des potentialités parce que je vous les donne. Je vous donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est à nous. Le Saint-Esprit doit se manifester. Par exemple, quand il se manifeste, nous voyons les fruits que nous avons déjà cités. Et Jésus nous dit, oui, je vous donne la possibilité du ciel, agissez comme le sait, travaillez, vous avez cette chance, cette possibilité de changer le monde, de changer le monde croyant, qu'il soit croyant. Donc, comme le ciel aussi change quand il va nommer sur les aliments. Dieu nous met sur la terre et nous remplit de sa saveur, qui est la joie, qui est la paix, qui est la justice. Ce qu'il attend de nous, ce que nous répandions sur terre, nous répandions cette saveur, donc, sorcière, dans le monde. Dieu nous a donné, nous aussi nous devons donner. Et Dieu nous a choisis. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a choisis. Vous n'êtes pas ici pour vous amuser. Vous êtes là parce que vous êtes chrétien, parce que vous voulez parler à Dieu, parce que vous connaissez Dieu. Si vous avez cette chance de l'avoir, vous avez aussi la responsabilité de donner, parce que Dieu vous a donné cette chance, cette faveur, mais il vous demande de ne pas garder ça, ce trésor pour vous-même. Il vous demande de sortir, d'aller vers les autres, comme le sait, et partager ce que vous avez en vous, aux autres, pour qu'ils puissent mieux le connaître et mieux le servir. Et regardez donc autour de nous, la maison combien le monde est fade. Nous croyants, nous sommes la réponse de ce problème qui peut redonner l'espoir à la vie et au monde. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons que le monde est fade. Ça veut dire quoi? Quand nous regardons autour de nous, que ce soit dans ce pays et dans d'autres pays, Nous voyons des gens qui sont, certains s'appellent athées, d'autres se donnent à autre chose, d'autres, dans pays comme ici, d'autres ont abandonné les églises, elles sont vides partout. Des gens qui se moquent des chrétiens, des persécutions qui se font partout. Ceci, pour Dieu, pour Jésus, le monde devient de plus en plus fade. Le monde n'a plus de valeur, n'a plus de cette saveur que nous devons avoir. Le monde n'a plus cette gaieté de vivre. Le monde est en train de. Quand je dis le monde, ce n'est pas tout le monde, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, plus on avance, on dirait qu'on avance à reculons. Parce que quand on voit le christianisme, comment il était dans le siècle passé, c'est pas ce qu'il est maintenant. C'est pas ce qu'il est maintenant. Il y a beaucoup de choses qui montrent qu'on n'est pas en train d'avancer. Et peut-être qu'on est cru dans beaucoup de cas. Donc vous voyez, les églises qui sont vides dans les pays européens, et même ici, au Canada, aux États-Unis, on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le monde devient de plus en plus fade. Nous avons besoin de sel. Nous avons besoin de beaucoup de sel pour que cette saveur de la parole de Dieu puisse prospérer. Alors, du sel ou du goût à ce monde grâce à la paix du Saint-Esprit, ce que nous pouvons demander aujourd'hui, mes amis, c'est de prier. De prier à Dieu, de Père Jésus, pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous fortifier, nous donner la force pour que nous puissions avoir beaucoup de sel en nous, avoir beaucoup de potentialité en nous, pour que nous puissions annoncer sa bonne nouvelle, pour que les gens puissent mieux comprendre que oui, la meilleure voie pour chacun de nous, comme Jésus l'a enseigné sur la montagne, c'est d'avoir du sel, c'est de voir en nous que nous avons cette responsabilité. Je souligne le mot responsabilité parce que quand je dis vous êtes au sel, il veut nous montrer que nous avons quelque chose à faire. Nous avons une mission à faire. Et cette mission, pour que nous puissions la faire, nous avons besoin de la force. Et la force, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Et la force est générée par le Saint-Esprit. Prions, mes amis, pour que le Saint-Esprit puisse être répandu sur nous, pour que nous puissions transmettre ce message, que le monde, qui est de plus en plus fade, puisse retrouver la saveur d'antan et la saveur générée par le Saint-Esprit. Amen. Prions. Dieu, notre Père, merci. Merci pour ce message que tu viens de nous transmettre. Merci de nous rappeler que tu nous as créés en nous aimant. Merci, tu nous as créés pour nous donner aussi une mission, Seigneur. Oui, tu nous demandes d'être le sel de la terre. Tu nous demandes d'être la lumière de ce monde, Seigneur. Oui, nous avons compris ton message, Seigneur. Mais nous avons cette faiblesse humaine, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à comprendre que cette mission, ce n'est pas un choix que tu nous donnes, c'est un ordre que tu nous donnes. Et la seule façon de vivre avec toi, de rester avec toi, c'est d'accomplir cette mission que tu nous as donnée, d'être le seul Seigneur. Donne-nous la capacité de comprendre que nous devons avoir une certaine saveur dans ce monde pour annoncer ta bonne nouvelle. Donne-nous la capacité de nous faire comprendre, le Seigneur, de montrer que par notre comportement, par nos fruits, par l'amour, par l'humilité, par d'autres fruits de Saint-Esprit que nous avons en nous, Seigneur, nous puissions montrer que tu es là, montrer que nous sommes tes messagers, montrer que nous sommes tes disciples, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu viens de nous enseigner et merci de renforcer notre sel. Nous voulons que le sel que tu as mis à nous soit augmenté, Seigneur, et que la force du Saint-Esprit nous aide à le mettre en pratique. Amen.